Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand la sous-location est instrumentalisée par des entreprises. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. Des entreprises instrumentalisent le Code civil du Québec en agissant à titre de locataire de logement qu'elle sous-loue ensuite à fort prix à des étudiants étrangers et à des travailleurs temporaires auxquels elles imposent des conditions de location interdites dans les baux traditionnels, a constaté Le Devoir. On vient instrumentaliser des dispositions du Code civil qui ont été créées pour protéger les locataires, donc les personnes qui résident véritablement dans un logement, relève, en entrevue, l'avocate Valérie Black-Saint-Laurent. Au sujet des entreprises bien implantées à Montréal qui se spécialisent dans la sous-location de logements. En effet, même si le principe de la sous-location a été enchâssé dans la législation québécoise afin de permettre à un locataire qui doit quitter son logement pendant quelques mois de lui trouver un occupant temporaire pendant son absence, rien n'empêche, dans le Code civil, une entreprise de louer un logement et de le sous-louer par la suite à un locataire résidentiel, explique l'avocate. Pourtant, dans les faits, ça n'a aucun sens, puisqu'une personne morale n'occupe pas physiquement un logement, souligne Maître Black-Saint-Laurent. Elle constate ainsi que, sans agir illégalement, les entreprises qui se spécialisent dans la sous-location de logements à profit, en prétendant être des locataires, exploitent un angle mort du Code civil. Un modèle d'affaires. Parmi les entreprises qui ont fait de la sous-location de logements leur modèle d'affaires, on compte Get Your Place, qui permet chaque année à des centaines de personnes d'occuper les chambres meublées de grands appartements stratégiquement situés près de plusieurs universités de la métropole. Le Devoir a tenté à maintes reprises de joindre cette entreprise québécoise et un de ses cofondateurs sur une période de 2 semaines, mais n'a obtenu aucune réponse. Dans une décision rendue le 12 mai 2025, impliquant un propriétaire qui tentait d'obtenir la résiliation de baux qu'il avait signé avec Get Your Place pour la location de 4 logements, le tribunal administratif du logement, TAL, explique que le modèle d'affaires de cette entreprise consiste à louer des logements résidentiels dans le seul but d'en faire la sous-location à profit. La compagnie loue des chambres à environ 550 personnes par année, essentiellement à des étudiants étrangers sous-louant les logements pour une période de 6 à 12 mois. Les appartements sont loués meublés et le prix inclut tous les services, indique la décision de la juge administrative Marie-Dominique. Constatant que l'intention avouée du locataire dans ce dossier, soit l'entreprise Get Your Place, n'est pas d'habiter ces logements, mais plutôt de les relouer à profit, le TAL a tranché que le contrat unissant les deux parties dans cette affaire est de nature commerciale. Le tribunal a ainsi décliné sa compétence juridictionnelle dans ce dossier au bénéfice de Get Your Place, qui a pu continuer d'offrir les 4 appartements en question sur sa plateforme. Un dépôt interdit et une forte hausse du loyer. une autre entreprise, Harrington Housing, qui sous-loue des chambres meublées dans de nombreuses grandes villes du monde, dont Montréal, a, elle aussi, fait l'objet dans les dernières années de plusieurs décisions du TAL. Ce dernier a ainsi tranché, le 4 juin 2025, que l'entreprise devait remettre 3 620 $ à deux locataires qui avaient déboursé cette somme pour des frais administratifs, un premier mois de loyer et un dépôt de garantie visant à réserver un logement qu'ils n'ont jamais pu occuper. En effet, en arrivant au Canada en 2024, les locataires ont été informés par l'entreprise que le logement choisi n'est plus disponible. Harrington Housing leur offre alors un logement qui ne ressemble pas du tout à celui que devaient occuper les locataires, en plus d'être insalubre et situé dans un autre quartier que leur lieu d'étude, indique la décision du TAL. La preuve prépondérante démontre que la locatrice a fait défaut de livrer le logement prévu au contrat et que le locataire était justifié de refuser de prendre possession du logement de remplacement, a tranché la juge administrative Jessica Khalil, qui déplore par ailleurs que Harrington Housing ait exigé illégalement un dépôt de sécurité à ses locataires. Le TAL a d'ailleurs jugé à deux reprises en 2024 que l'entreprise devait rembourser un dépôt en argent qu'elle avait exigé en contravention du Code civil du Québec aux locataires d'autres logements à Montréal. Jointe par Le Devoir, l'entreprise Harrington Housing affirme pour sa part qu'elle n'exige pas de dépôt de garantie à ses locataires au Québec. Dans de rares cas, les demandeurs peuvent volontairement offrir une forme de garantie financière s'ils ne disposent pas de revenus suffisants ou d'un garant, mais notre plateforme ne le demande ni ne l'exige, ajoute l'entreprise, qui affirme que ses politiques sont entièrement conformes au Code civil du Québec et à sa réglementation sur la location qui interdit les dépôts obligatoires. Le TAL a donné raison en novembre 2022 à deux locataires qui réclamaient le remboursement d'un dépôt de 1 350 $ qu'ils avaient remis à Get Your Place afin de pouvoir louer un logement meublé dans la métropole. Car, selon la loi, le paiement d'une autre somme que le premier mois de loyer ne peut être exigé, et ce, même dans le cas où le locataire choisit un logement meublé, a tranché la juge administrative Isabelle Hébert. Get Your Place a ainsi été forcé de leur remettre le dépôt en plus de rembourser des frais de 103 $. Ils demandaient un dépôt et à l'époque, quand on a décidé de louer, on ne savait pas que c'était illégal. On l'a payé de toute façon, raconte en entrevue Robert Jigzinski, qui avait signé ce contrat avec sa conjointe, Catalina Turriago. Le TAL est par ailleurs venu annuler une augmentation de 13% du loyer, soit 179 $, qu'avait tenté d'imposer Get Your Place aux locataires de ce logement. Devant le refus des locataires de subir cette augmentation, l'entreprise leur avait demandé de quitter ce bâtiment le 30 juin 2022. Le TAL a plutôt jugé que les locataires pouvaient rester dans ce logement dont le loyer ne pourrait pas augmenter avant le 30 juin 2023. Des frais interdits. Le contrat de sous-location qu'avait signé le couple, que Le Devoir a pu consulter, prévoyait par ailleurs l'imposition de frais allant de 2 à 10 % du prix du loyer dans le cas de retard allant de 1 à 5 jours dans le paiement du loyer. Tout retard excédant 5 jours pouvait entraîner une augmentation de 20 % de la mensualité. Or, de tels frais de retard sont interdits dans les baux de nature résidentielle, tout comme toute pénalité qui dépasse la valeur du préjudice réellement subi par le propriétaire, indique l'avocat Daniel Crespo Villarreal. Plus globalement, le fait de considérer que les personnes signant un contrat de location avec Get Your Place sont des sous-locataires limite leur droit au maintien dans les lieux puisque ceux-ci ne voient pas leur contrat être automatiquement renouvelé, comme c'est le cas pour les locataires, soulignent les avocats consultés. Ça crée une précarité que les gens ne réalisent pas, relève l'avocat Antoine Morneau-Sénéchal, qui estime que des changements législatifs s'imposent afin de mieux encadrer les sous-locations. Il pourrait, par exemple, être tout simplement interdit qu'une entreprise agisse à titre de locataire de logement, évoque Valérie Black-Saint-Laurent. Car, tant que rien ne sera fait, des locataires continueront de vivre des mésaventures liées aux pratiques d'entreprises de sous-location, s'inquiète la conseillère à la vie étudiante à l'Université du Québec à Montréal, Maude Giguère. Cette dernière accompagne régulièrement des étudiants étrangers qui sont à la recherche d'un logement. Parmi eux, plusieurs optent pour des entreprises qui sous-louent des chambres, constate-t-elle. La réalité, c'est que beaucoup d'étudiants vont se tourner vers ces solutions-là parce qu'ils n'ont pas d'autre place où aller, relève Mme Giguère. C'était quand la sous-location est instrumentalisée par des entreprises. Un texte de Zachary Goudreau paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir.
Maya Ambazic, Cécile Gagnon et Marianne Casselot, Combler l'absence des pionnières. Une entrevue réalisée par Claudia Larochelle, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires. Hyparchia, Hypatie, Aspasie, Maria Zambrano, Iris Murdoch, Christine de Pizan, Elisabeth de Bohème, Alexandra David-Néel, Marguerite Porrut, Mary Wollstonecraft. Il y a fort à parier que la plupart de ces noms soient inconnus pour plusieurs, à contrario de ceux de Platon, Descartes ou Kant, plus communément associés à la philosophie. Pourtant, les premières aussi étaient philosophes, et pas moins importantes. Or, comme femmes, leurs contributions ont été ignorées, rejetées, ridiculisées ou encore considérées comme mineures, donc à peu près jamais enseignées. Pour contredire cette tradition patriarcale et remettre en lumière leurs pensées, deux titres brillants ont été publiés récemment. Femme philosophe, 21 destins de combattante de Maya Ambazic et Existante pour une philosophie féministe incarnée de Cécile Gagnon et Marianne Casselot. Jeune femme dans la vingtaine, j'étais à la recherche de modèles féminins dans le cadre universitaire. sur le point d'abandonner les sciences humaines, taxée d'un 3P au carré, peu payante, peu précise et peu prometteuse à long terme, j'aurais trébuché du côté de la science exacte si sa boussole parfaitement alignée de femme de savoir, de tête et de conviction n'était pas venue à mon secours, écrivait Maya Ambazic dans Le Devoir en 2018 au sujet de celle qui a été l'étincelle dans son parcours philosophique à l'Université d'Ottawa, la professeure Danielle Letocha, seule femme à détenir ce poste pendant 14 ans. Lorsqu'elle rentrait parfois dans un amphithéâtre, les étudiants lui disaient « Vous vous trompez de salle, il n'y a pas de femme en philosophie », poursuit-elle. Ça se passait au début des années 2000, pas au temps d'Hypatie d'Alexandrie, qui vécut entre 355 et 415. Heureusement d'ailleurs, parce que cette figure mythique de la philosophie antique fut sauvagement assassinée par des fanatiques chrétiens commandités par l'évêque Cyril d'Alexandrie, qui voyait en elle une menace directe à son pouvoir. C'est en partie grâce à l'aplomb de cette professeure Letocha si son ancienne étudiante restitue aujourd'hui la voix de la fascinante Hypatie et de 20 autres femmes philosophes dans son essai illustré d'une manière épatante par Evelyn Smith. Cette même philosophe néo-platonicienne, mathématicienne et grande oratrice, dont la majorité de l'œuvre est aujourd'hui disparue, fait aussi belle figure, parmi d'autres, dans l'essai coécrit par Cécile Gagnon et Marianne Caslow, qui redonne à la pensée féministe ses lettres de noblesse. Si ces femmes n'ont pas été reconnues comme des philosophes à part entière, c'est d'abord parce qu'elles ont été assignées à la catégorie « femmes », qui seraient par nature incapables d'élaborer une réflexion rationnelle, souligne-t-elle en introduction de leur essai qui dévoile les dynamiques de domination à l'œuvre dans les concepts classiques tels que la raison, la justice ou l'autonomie. Les co-autrices remettent aussi en question le prétendu sujet universel et explorent une philosophie du quotidien ancrée dans l'expérience sensible, traçant de multiples chemins vers une autre subjectivité politique. On a essayé de faire un panorama avec celles qu'on connaissait bien selon nos spécialités. Puis, on aime se mettre au défi, Marianne et moi, si bien que, comme femme blanche, cis, on a choisi de se confronter aussi à nos propres privilèges, à des expériences du monde ou du corps dont on n'a pas accès directement, en lisant par exemple des penseuses décoloniales, racisées, non-binaires, etc. Commente Cécile. À l'extérieur des murs de la pensée dominante. Dans son essai, présenté sous forme de documentaire fiction, Maya donne pour sa part la parole à 21 combattantes telles que Marguerite Porrot, Olympe de Gouges, Rosa Luxembourg, Judith Butler, Simone Veil ou Suzanne Muller-Hawkin. Celle qui enseigne la philosophie à Montréal déplore, elle aussi, l'invisibilisation féminine de son champ d'études. Heureusement que cette longue histoire d'usurpation, d'exclusion et de domination n'a pas empêché les femmes tout au long de l'histoire occidentale de proposer un contre-courant à la pensée dominante. Pensée qu'il faut dépoussiérer afin de faire découvrir aux jeunes générations la panoplie de modèles féminins théoriques. Car, contrairement à ce lieu commun parfaitement résumé dans cette question que j'ai entendu plus d'un million de fois, qui sont les femmes philosophes à part Simone de Beauvoir et Hannah Arendt? Force est de constater que l'histoire regorge de modèles de philosophes femmes tant sur le plan théorique que pratique, souligne-t-elle en préambule de son ouvrage. On me renvoyait souvent à Simone de Beauvoir et Judith Butler qui, en même temps, peuvent être très compliquées à lire. Je me disais qu'un jour, j'allais comprendre ces textes intimidants. Je voulais réfléchir en dialogue avec ces auteurs-là, se souvient Cécile, pour qui découvrir les théories féministes lui a aussi permis d'entrevoir la possibilité de théoriser le rapport au corps, à la violence, au mal-être qu'on pouvait ressentir comme femme. Il n'y a pas juste Kant, Descartes, Platon. Nous aussi, on peut être critique et badass, poursuit celle qui avait envie d'écrire le livre qu'elle aurait voulu lire au cégep. Idem pour Maya, qui a choisi de mettre son titre au programme de son enseignement en philosophie. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est qu'on m'a tellement dit qu'il n'y avait pas de femmes en philo. On ne les voyait pas. Je m'en sers avec mes étudiants pour faire des ateliers. Ils apprennent à découvrir leur vie, leur combat. Il y avait un manque dans ce sens-là comme un grand vide, ajoute celle qui est aussi écrivaine. Vous écoutez Maya Ambazic, Cécile Gagnon et Marianne Caslot, Combler l'absence des pionnières, une entrevue réalisée par Claudia Larochelle, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires. Sortir de l'essentialisme. Dans leur opus, existante pour une philosophie féministe incarnée, les autrices y vont aussi d'un postulat cher à leur cœur qui sous-tend par ailleurs en filigrane l'ensemble de leurs réflexions philosophiques. C'est qu'il n'existe pas de différence identifiable entre les hommes et les femmes qui serait de source biologique. C'est être socialisé garçon ou fille qui nous place dans des postures très différentes, qui influence notre rapport aux autres, à notre corps, à nos possibilités dans la vie, aux attentes des autres à notre endroit, complète Cécile, qui est chargée de cours et doctorante en philosophie à l'Université de Montréal. Même si la philosophie est un domaine plus ouvert aux femmes qu'avant, les débuts, pourtant pas si lointains, des trois autrices ne furent pas exempts d'embûches. Le déclic féministe réel s'est produit dans un cours d'éthique appliqué où le professeur s'évertuait à faire une très mauvaise analogie entre l'euthanasie et l'avortement. Après trois cours à écouter ses élucubrations à tendance anti-choix, moi qui n'avais jamais pris la parole durant mon baccalauréat, je me suis armé de courage pour intervenir, car aucune des femmes présentes dans la classe n'avait alors émis de commentaires. J'ai argumenté que cet exercice de pensée constituait une pente glissante, car il demandait de limiter et d'encadrer les deux interventions médicales de la même manière, alors qu'on parle de deux enjeux complètement différents. Le professeur m'a interrompu sans appel en me demandant pourquoi il était impossible de discuter calmement avec les féministes. Un vrai moment de police du ton qui m'a enragé, mais qui, rétrospectivement, a consolidé ma volonté de faire de la philosophie féministe et d'être féministe en philosophie. Note dans l'ouvrage Marianne Caslot, doctorante en philosophie à l'Université Laval. Rien pour étonner Maya, qui se souvient de ses entrevues d'embauche en enseignement de la philosophie. J'arrivais dans un auditorium avec 10 mecs arrogants, les bras croisés et où aucune femme n'était présente. Ils revenaient sur une thèse que j'avais défendue pour que je leur prouve que ça se tenait. Je rappelle que j'étais dans une entrevue d'embauche. J'ai vécu ça 1000 fois, se souvient-elle. Le sempiternel syndrome de l'imposteur. Malgré ses années d'expérience, son évidente solidité et bien sûr une confiance plus grande que jamais lorsqu'elle enseigne avec générosité et un réel amour de la transmission, Maya avoue ressentir encore, consciemment ou inconsciemment, le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on est vraiment à notre place? C'est comme pour les femmes pilotes, pour lesquelles j'imagine que la question de la légitimité est toujours présente. Donc, il faut encore plus prouver qu'on est capable. Ça prend de l'assurance, oui, pour se mettre devant une classe et parler de Descartes, il faut savoir de quoi il en ressort. L'assurance, ça, je l'ai. S'il y a bien une chose bonne au fait de vieillir, reconnaît l'autrice de « Femme philosophe », dans lequel les probabilités de se trouver un modèle, voire une héroïne, parmi les penseuses présentées sont très fortes, tant elles sont inspirantes. La philosophie peut effacer et rebuter beaucoup de femmes, et encore plus les personnes racisées ou celles qui ont une identité de genre différente. Elle est tellement universelle comme discipline qu'elle est toujours en train d'exclure tout ce qui ne correspond pas à une norme très rigide de l'expérience humaine. Ainsi, on est porté à aller dans des milieux qui nous sont moins hostiles. Détaille Cécile, qui précise qu'à toutes les époques, il y a eu des critiques féministes, des décoloniales ou antiracistes des structures de savoir élaborées par des personnes en situation de pouvoir. Selon elle, chaque fois, leurs savoirs ou leurs écrits ont été volontairement oubliés ou mis de côté. Bref, ils ne se sont pas rendus à nous. Un pas en avant. Cette dernière entrevoit toutefois l'avenir sous de meilleurs auspices. Je crois que le nombre de femmes en philosophie augmente, qu'il y a plus de femmes qui se font engager dans des postes. Bien que les femmes soient encore minoritaires, surtout aux études supérieures, le prochain défi sera aussi de colorer la discipline, parce qu'en ce moment, elle est blanche de chez blanche. Ça prend d'autres perspectives, mais oui, il y a des grands changements dans le monde académique, des colloques, des études. Des gens commencent à voir comment adapter les cours au cégep pour faire une place aux philosophies féministes ou antiracistes. Il faut dire qu'importe l'époque dans laquelle vécurent ces grandes voix féminines de la réflexion, elles résonnent toutes avec le temps présent, ses enjeux, ses débats, ces nouvelles préoccupations sociales dans un monde en constante évolution. C'est maintenant ou jamais qu'il faut les entendre, d'autant plus que l'étau tend à se resserrer autour des droits des femmes. Il faut contrebalancer le courant qui va dans la mauvaise direction, soutient Maya. S'il en va de rétablir l'ordre, voire d'enrayer les désordres du monde pour elle, il en va aussi de penser l'autorité des femmes qui étaient là avant nous, de reconnaître qu'elles ont tracé le chemin, qu'on a tout à gagner de prendre appui sur leurs travaux. Il existe des modèles qui irradient même après leur court passage, comme ces étoiles mortes depuis longtemps, mais dont l'œil perçoit encore la lumière. C'est peut-être ça, l'immortalité à laquelle aspirait Achille. Survivre dans la mémoire des hommes longtemps après sa mort, grâce à une vie et à une plume exemplaire, exprimait avec éloquence Maya dans son hommage à Daniel Letocha. C'était Maya Ombazic, Cécile Gagnon et Marianne Caslot, Combler l'absence des pionnières, une entrevue réalisée par Claudia Larochelle, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.
La citoyenneté numérique devrait-elle devenir un contenu obligatoire à l'école? Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir. Dans le but de mieux encadrer les jeunes à l'ère du numérique, les membres de la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes interpellent le gouvernement pour que la citoyenneté numérique devienne un contenu obligatoire dans le parcours scolaire. Il s'agit de la recommandation 23 du rapport de la Commission qui a été déposée jeudi le 30 mai 2025 à l'Assemblée nationale. On sollicite le gouvernement du Québec afin qu'il mette à jour le programme de formation de l'École québécoise, PFEQ, le cadre de référence de la compétence numérique et la politique d'évaluation des apprentissages pour tracer clairement la voie à suivre pour les enseignants et les autres intervenants du milieu scolaire. On demande aussi au gouvernement d'évaluer l'occasion d'instaurer la compétence numérique comme contenu obligatoire en attendant son intégration complète dans les programmes du PFEQ. Il existe déjà certaines notions numériques qui sont incluses dans le cours de culture et citoyenneté québécoise, indique Annie Primeau, vice-présidente à la vie pédagogique pour la Fédération autonome de l'enseignement, FAE. Ce qu'on comprend à la suite du rapport, c'est qu'il y a un souhait de modification plus profonde du PFEQ. Cela dit, lorsqu'on parle de modifier le programme de formation québécoise, il faut que le personnel enseignant fasse partie de ces changements, soutient Mme Primeau, et surtout que les modifications ne soient pas imposées. Mme Primeau affirme que les contenus du PFEQ sont déjà saturés. Il n'y a déjà plus de place, lance-t-elle, ce qui l'amène à poser une ultime question : qu'est-ce qu'on va enlever pour pouvoir intégrer ça ? Parce que ça aussi, il faut y penser, poursuit-elle. Le programme est déjà plein. Il y a déjà plein de personnes enseignantes qui disent « je n'arrive pas à tout passer ». Mme Primeau rappelle que par le passé, l'imposition de notions obligatoires a écrasé d'autres choses. Elle cite le cas des cours d'éducation à la sexualité qui ont été saupoudrés sur l'ensemble des matières avant de s'ajouter officiellement dans le programme. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir sur ce qu'on va enlever pour garder notre équilibre et garder en même temps ce souhait de vouloir actualiser la formation donnée aux jeunes à l'ère de 2025, détaille Mme Primeau. La docteure Karine José-Higartois, psychiatre et membre du conseil d'administration de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, espère que le gouvernement ira de l'avant avec la recommandation 23. Elle aimerait qu'on approfondisse avec les jeunes ce que c'est que la cyber-intimidation, le sextage et qu'on leur apprenne à reconnaître les fausses informations et les images générées par l'intelligence artificielle. Ça fait partie de ce qu'on doit montrer à nos jeunes et j'étais très contente de voir qu'il y avait une recommandation dans ce sens-là. C'est d'ailleurs une des recommandations que la Fédération des médecins spécialistes du Québec avait faites, indique-t-elle. Ne pas échapper la prochaine génération. La FAE met en garde qu'il ne faut pas que les enseignants soient les seuls à s'occuper de l'encadrement des réseaux sociaux. C'est un changement social. Tout ne peut pas reposer que sur les épaules du milieu de l'éducation, prévient Mme Primeau. On le voit aussi dans le rapport. Il y a un souhait de responsabilité partagée, notamment certains éléments qui relèvent peut-être plus du communautaire ou encore des services sociaux. Il faudrait par exemple augmenter le nombre de psychologues pour traiter certaines problématiques qui sont vécues par des jeunes en lien avec la cyber-intimidation. Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, aimerait voir un partenariat entre l'école et la maison. Elle voit positivement l'idée d'intégrer des compétences numériques dans les programmes scolaires. C'est important de l'enseigner à nos enfants, dit-elle. C'est important à la maison, mais ce n'est pas tous les parents qui connaissent assez ça ou qui sont suffisamment bien outillés pour bien éduquer leurs enfants face à ça. Puisqu'il y a tout un pan de la socialisation qui se fait en ligne, Madame Laviolette croit qu'il est incontournable de l'enseigner aussi à l'école. On retrouve sur les réseaux sociaux plusieurs dérives. Les gens ont oublié qu'ils s'adressaient à quelqu'un quand ils parlent. Ils se vident le cœur, ils disent ce qu'ils ont à dire, ils oublient qu'il y a quelqu'un derrière, soulève Madame Laviolette. Donc, il faut apprendre les codes sociaux, comme le civisme de la vie de tous les jours. Et ça se transpose dans la vie numérique parce que ça fait partie de notre réalité maintenant. La docteure Higartois abonde dans le même sens. Le cellulaire est arrivé sans que les parents et les adultes et les profs autour comprennent un petit peu c'était quoi les impacts. Maintenant, on sait c'est quoi les impacts, et j'aimerais ça qu'on n'échappe pas la prochaine génération, conclut-elle. C'était « La citoyenneté numérique devrait-elle devenir un contenu obligatoire à l'école ?» un texte de Catherine Desautels de La Presse canadienne, paru le 20 mai 2025 dans Le Devoir.
Raphaël Provost lutte contre les discriminations et les agressions. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. Directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, Raphaël Provost lutte quotidiennement contre le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie et les autres formes de discrimination. Un événement malheureux survenu dans ses vies personnelles l'a également poussé à prendre la parole publiquement contre les agressions sexuelles. Quel était ton parcours avant de prendre la direction d'Ensemble? J'ai un parcours très atypique. J'ai mon secondaire 5 et j'ai commencé à travailler vers 16 ans en tant que commis de bureau dans le milieu des assurances. De fil en aiguille, je suis devenu réceptionniste, adjoint administratif, adjoint exécutif, adjoint de président d'entreprise. Puis, j'ai travaillé environ 5 ans à HEC Montréal en tant que responsable des événements et des communications pour un pôle de recherche en gestion. J'étais entouré des meilleurs au monde en ressources humaines, en gestion du changement, en finance et en communication. J'absorbais tout ce qu'on me partageait. Puis, tout a changé durant la pandémie. J'ai vécu une crise existentielle et j'ai quitté mon emploi sans plan B. Je suis devenu bénévole au Gris Montréal. Un jour, j'ai vu l'affichage d'un poste de direction générale au JAG, J-A-G, un organisme LGBTQ+. J'ai décidé de tenter ma chance. Le jour de mon anniversaire, j'ai obtenu le poste. J'y suis resté près de 2 ans. J'ai travaillé fort pour remettre l'organisme de l'avant. Jusqu'à ce qu'on m'apprenne qu'Ensemble était à la recherche d'une personne pour la direction générale il y a 2 ans et demi. Quelle est la mission d'Ensemble? Depuis 29 ans, on rencontre les jeunes dans les écoles primaires et secondaires pour les aider à mieux comprendre ce qu'est une discrimination. S'ils la vivent, ils pourront la reconnaître et se sentir moins seuls. S'ils la font subir, ils auront des outils pour s'en éloigner, réaliser qu'on vit ensemble et qu'on doit travailler sur notre respect envers nous-mêmes et envers les autres. On leur parle de sexisme, de racisme, d'homophobie, de transphobie et de tous les types de discrimination. Ce n'est pas du témoignage, mais des ateliers éducatifs et participatifs. Chaque année, on rencontre plus de 36 000 jeunes. Quelles sont vos préoccupations en 2025? Beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par ces luttes et les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Même si je suis presque tous les jours dans les médias pour répéter notre mission, les gens se demandent encore ce qu'on fait dans les écoles. Quand tu le vis, tu comprends assez vite. Notre autre défi, c'est le financement. Alors que tout le monde dit que les discriminations sont un fléau en augmentation, les moyens ne suivent pas. Pourquoi est-ce important de prendre la parole à la radio et à la télévision aussi souvent? Parce qu'on offre une solution à ces enjeux, il faut la faire connaître. Je ne le fais pas seulement pour notre organisation, mais pour le milieu communautaire au sens large. Au Québec, il y a presque une solution pour tout, mais les gens ne les connaissent pas. Veux-tu également obtenir plus de visibilité pour ton bien personnel? En toute honnêteté, ma première volonté est de faire connaître Ensemble. Je vois que les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement maintenant. Cette nouvelle crédibilité nous permet de rencontrer des gens qui pourraient nous offrir du financement ou autre chose. Cette game-là, je l'ai comprise assez rapidement. À titre personnel, je ne déteste pas ça. même si ça vient avec beaucoup de côtés sombres, d'attentes et d'idées préconçues. Cela dit, j'ai été victime d'intimidation toute ma vie et j'ai longtemps cru que ce serait impossible de trouver ma place en étant moi-même. Aujourd'hui, quand j'occupe cet espace en étant qui je suis, j'imagine que ça pourrait inspirer une autre personne et ça me plaît. Sur tes réseaux sociaux, en plus de ton titre professionnel, tu te présentes comme un ex-modèle Jean-Paul Gaultier, top 3 des jeunes cadres du Québec et top 15 LinkedIn Québec. Quelle image veux-tu projeter? Que c'est possible de réaliser de belles et grandes choses quand on est authentique, qu'on travaille fort et qu'on est bien entouré. J'ai voulu être mannequin et je l'ai été pour Jean-Paul Gaultier. J'ai un secondaire 5, mais je suis nommé jeune leader du Québec et je gère un organisme avec plus de 20 employés. C'est peut-être aussi une façon de me rappeler et de rappeler aux autres ma valeur, alors que je n'ai pas le papier qui convainc plein de gens. Ça veut dire beaucoup sur LinkedIn, quand on voit une personne avec une maîtrise ou qu'un autre a étudié à telle école. L'hiver dernier, tu as témoigné d'une agression sexuelle. Tu en as parlé dans une conférence, sur tes réseaux sociaux et dans les médias. Pour quelle raison? Quand j'ai été invité à prendre la parole au Salon de la Tentation, je ne savais pas de quoi je parlerais. Finalement, j'ai ressenti le besoin de briser ma solitude avec ce qui m'était arrivé et d'utiliser ma plateforme. Je pensais d'abord partager le beau et le mauvais des applications de rencontre en général, sans me livrer autant. Puis, quand est venu le temps de parler des côtés sombres, j'ai décidé de partager que ça m'était arrivé. J'ai aussi expliqué que j'avais déjà eu le réflexe trop facile de dire aux gens de dénoncer et de passer à l'action. Acceptes-tu de nous résumer ce que tu as vécu? Oui. Au départ, c'était une date qui ressemblait à beaucoup d'autres que j'avais eues, via Facebook Rencontre. J'avais eu un court échange avec un gars et je l'ai invité à prendre un verre, en sachant très bien que le potentiel était plus le plaisir qu'une relation amoureuse. Ça m'allait. J'avais déjà invité un inconnu chez moi et ça s'était toujours bien passé. Dès qu'il est arrivé, je le filais un peu moins. Il ressemblait moins à ses photos. Et le vent a rapidement tourné. Quand on a commencé à boire, il est devenu plus insistant. Il voulait que ça se passe. On a commencé et j'ai rapidement voulu que ça arrête. Il a forcé la chose. J'ai dit non. Il a voulu me forcer à lui faire une fellation. Je l'ai repoussé. Je ne me suis jamais entendu dire non de cette façon-là. Il a continué quand même. J'étais sur le divan, traumatisé. Il s'est touché, il est venu, il a relevé ses culottes et il est parti. Quand je suis retourné sur l'application, son profil n'était plus là. Je n'avais pas son prénom. J'ai pris une douche d'une heure. J'ai bu de la vodka. Je me sentais sale. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, en discutant avec une amie, j'ai compris ce que j'avais vécu. Quelle trace ça a laissé? Ça va me suivre toute ma vie. Même si une part de moi est encore insouciante, une autre ressent le traumatisme omniprésent dans le dating. Je me demande si ça va se reproduire. J'ai une nouvelle impatience face aux comportements problématiques. Je tolérais beaucoup avant. Je n'ai pas renoncé aux applications de rencontre, mais je les utilise autrement. Je crois encore qu'il y a du bon monde. Info, site web d'Ensemble pour le respect de la diversité, ensemble-rd.com. C'était Raphaël Provost, lutte contre les discriminations et les agressions. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Quelle île choisir aux Seychelles? Un texte de Marion Le Dort, paru le 5 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Imaginez le ravissement des navigateurs portugais qui, en route pour l'Inde, rencontrent ces confettis de terre. 115 îles comme autant de morceaux de paradis tombés dans l'océan Indien. Devant une telle offre, choisir son île aux Seychelles peut vite devenir cornélien. Toutes sont ourlées de bleu et saupoudrées de sable farine. Il faut aller plus loin. Vos îles, vous les aimez vertes et vallonnées, désertes et privées? Pour vous aiguiller, voici 10 options aux personnalités bien distinctes. Mahé. La logique ordonne de débuter cet exposé par Mahé, car elle est la plus grande, la plus visitée, la plus facile d'accès des terres seychelloises. L'île aux multiples superlatifs est-elle aussi la plus éprouvée? Sans doute. Il n'empêche, c'est généralement par elle que l'on est introduit à l'archipel. Comme telle, elle garde à jamais une place dans le cœur. À Victoria, capitale du territoire, la vie gronde. Le grand marché emporte les naufragés dans un maelstrom de couleurs et d'odeurs. Les architectures du monde entier semblent être tombées dans un grand chaudron. En quête d'air pur, on gagne le parc national du Morne Seychellois, point culminant qui trône à 900 mètres d'altitude. Le trail de Copolia permet de se frotter à cette nature généreuse. En contrebas, on zieute déjà de superbes plages à l'image de beaux vallons, inoubliables. Pralin. Format de poche comparé à Mahé, Pralin se pose tout de même en deuxième île de l'archipel avec ses 38 kilomètres carrés. Ourlée de falaises percées de grottes, elle fut longtemps l'antre de pirates clandestins, malgré sa taille qui semble la trahir. On s'y pose aujourd'hui, bien en évidence, sur la bande de sable de l'Anse-Georgette. Pour pouvoir approcher ces rochers polis par l'érosion, il faudra obtenir un laissez-passer de l'hôtel de luxe Constance Lemuria. À qui ce bout de paradis appartient, ou rallier cet Éden par la mer, en rafio ou à la nage. Dans les terres, l'étonnante vallée de Mai ravit le titre de joyau de l'île. Au cœur de l'ébouriffante forêt tropicale se côtoie une ribambelle de palmiers endémiques. Les visiteurs goguenards n'ont toutefois d'yeux que pour les coco-fesses aux courbes évocatrices. La digue. Tout sourire à la troisième place de ce qui n'est pourtant pas un podium, la digue brandit un atout de taille. Lance source d'argent. Dénoncée comme la plage la plus photographiée du monde, on s'agace de ses rochers lustrés et de son sable farine que l'on a vu partout, du film « Seul au monde » avec Tom Hanks en 2000, aux innombrables publicités sur sable fin. On croit même y reconnaître le fond d'écran par défaut de son ordinateur. Puis, on y pose le pied et l'irritation laisse place à l'émerveillement. Si le charme n'opère pas, cela serait étonnant. Direction les autres composantes du domaine de l'Union Estate. La demeure de planteur, l'usine d'huile de copra ou encore la plantation de vanille. Le tout à vélo. Silhouette. Au large de Mahé, Silhouette s'ébroue au petit matin. Les reptiles font frissonner les fourrés et les oiseaux rejoignent en pointillés un nouvel arbre tropical. Quelque part sous la canopée, la chauve-souris des Seychelles ou roussette des Seychelles s'étire, dévoilant une fourrure incandescente. En début ou fin de journée, elle déploie ses ailes et fait le tour de l'île, à l'instar du lagon. Dans les terres, une myriade de sentiers appelle les marcheurs adroits. Certains côtoient les crêtes, tandis que d'autres s'engouffrent dans l'énigmatique mangrove. Figure emblématique de l'île, la famille d'Aubin en était propriétaire jusqu'en 1960. La pierre a gardé trace de son passage, que ce soit à la passe, la grande case ou, symbole ultime de sa démesure, à l'imposant tombeau familial bâti à la manière d'un temple grec. Félicité. Le confetti de terre porte bien son nom. Comment ne pas se sentir bien heureux lorsque l'on compte parmi les privilégiés à y avoir accès? Modeste île granitique ornée de vert et ourlée de blanc, Félicité arbore un seul et unique hôtel, un petit bijou du groupe Six Senses, dont les volumes se fondent à merveille avec les formations rocheuses. Il faut donc voir avec eux pour rallier cette ancienne cocoteraie aux allures de paradis originel. Trahis seulement par leur tuba, les snorkelers s'en donnent à cœur joie sur le littoral où poissons, papillons, chirurgiens et perroquets se mêlent dans un impressionnant ballet sous leurs yeux masqués et ébahis. Vous écoutez « Quelle île choisir aux Seychelles », un texte de Marion Le Dortz, paru le 5 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Round Island. À quelques encablures de Mahé, baigné dans le parc marin national de Sainte-Anne, Round Island n'arbore elle aussi qu'un unique établissement hôtelier. Cela s'explique un peu par sa taille, 2 km². Celle-ci n'empêche pas cet îlot tout en rondeur, d'où son nom, d'arborer à la manière de ses cousines, palmiers ondulés, sable virginal et lagon turquoise, dont la lisière contraste formidablement avec le bleu de l'océan. On vit ici un songe éveillé. Se réveiller serait admettre que l'on se trouve si proche de l'île capitale. Pour l'oublier, on s'enfonce sous la surface entre coraux multicolores et prairies d'herbes marines, aux côtés de spécimens marins qui ne s'embarrassent plus d'avoir l'air intrigué. Dennis Island. À une centaine de kilomètres au nord de Mahé, cette terre s'est affranchie pour aller se perdre dans l'océan Indien. Résultat, pas de téléphone, pas de Wi-Fi. Et c'est très bien comme cela. C'est le navigateur français Jean-François Sylvestre Denis, comte de Trobriand, qui aurait découvert l'île en 1773. Depuis cette période, il s'en est passé des choses cousues et décousues. L'île s'est développée, puis ses sauveurs ont décidé de revenir aux essentiels. Vu du ciel, en arrivant à bord d'un coucou, on sait déjà à quoi s'attendre en sondant cette grande tache verte. Pas de traces d'installation à l'horizon. On est ici pour errer sous la canopée, cocotiers, filaos et badamiers. Une couverture que l'on partage avec quelques résidents endémiques. Foudi des Seychelles, Chama des Seychelles, Chitrek des Seychelles, Rousserolles des Seychelles. Dans l'eau, on s'attend presque à ne rencontrer qu'une faune « made in Seychelles », elle aussi. Frégate. On ne s'était pas encore aventuré dans ce coin-là. Perdu quelque part à l'est de Mahé, on côtoie ici les Seychelles orientales, en quelque sorte. En 1744, c'est Lazare Picot, explorateur français, encore un, qui repère le site et s'étonne de l'abondance d'oiseaux frégates qui y sont décelés. Et parce qu'avec 114 concurrentes dans l'archipel, il faut se positionner et que le titre d'île aux oiseaux était déjà ravi, frégate se distingue comme un modèle d'engagement écologique. Dans les années 1990, un homme d'affaires allemand fortuné se met en tête de redonner à l'île fraîchement acquise son apparence d'origine. Problème. Au XVIIIe siècle, elle abritait arbres préhistoriques, oiseaux exotiques et tortues géantes. Le défi fut relevé, avec un petit sacrifice à l'image originelle, une quinzaine de résidences de luxe avec piscine et bains à remous privés. Elles répondent à l'architecture vernaculaire, alors on ne s'en formalisera pas. Bird. On aurait été étonné de ne pas rencontrer pléthore d'oiseaux à Bird Island. Fort heureusement, l'île répond aux attentes et mérite toujours amplement son titre. L'imposante frégate se gonfle d'air et d'orgueil pour impressionner les femelles. Le paille en queue niche quelque part au sol quand il n'exhibe pas sa rectrice en vol stationnaire. Quant au stern, anguleux, il s'entraîne à piquer sur les ennemis ou à ceux qu'il considère comme tels. Leur balai étourdissant parviendrait presque à détourner l'attention de la vedette de l'île, Esmeralda, doyenne des tortues géantes des Seychelles, avec 170 ans et 300 kilos au compteur. Au large, baleines et dauphins viennent compléter cette arche de Noé seychelloise. North. À quelques kilomètres au nord-ouest de Mahé, North est, avec ses 2 km², à peine discernable. Sur cette petite île privée, 11 villas seulement. Mais quelles villas! Chacune, dotée de sa piscine et de son majordome personnel, ouverte sur les virgules de sable et sur la mer. Derrière ces cocons rêvés enveloppés d'un climat réconfortant, c'est tout un écosystème qui s'offre aux visiteurs. De la végétation au sable, une tortue XXL chemine tranquillement. Sur la plage, lune de miel, la mer opère un apaisant va-et-vient chuchotant à l'oreille des adeptes de Farniente installés sur le sable chaud. Choisir, c'est renoncer. Dès lors, pourquoi ne pas se l'épargner et tricher quelque peu en combinant quelques îles? Les grands classiques de Mahé, la Digue et Pralin? Les îlots en vogue de Silhouette et Félicité? Ou encore les Seychelles exclusives à Rum and Dennis Island? C'était « Quelle île choisir aux Seychelles? » un texte de Marion Ledortz, paru le 5 avril 2024 dans Voyageurs du Monde.